Alléluia. Notre Dieu règne pour l'éternité. Même si vous vous réveillez le lendemain matin, en fait, ça ne va pas avoir changé de gouvernement spirituel. Il règne pour l'éternité. C'est vrai qu'on est dans une phase où il y a beaucoup de choses qui changent, mais Dieu est stable. Alléluia. Dieu est stable. Voilà, ben on va... On a besoin de stabilité, c'est vrai. Ouais. Alors, Dieu, il est stable. Dieu est un Dieu organisé. Amen. Il nous mène pas en bateau. Ah, c'est pas un Dieu qui veut nous perturber, c'est au contraire un Dieu qui veut nous emmener toujours plus loin. Hein. Il est organisé, il est le commencement et la fin. Et c'est pas un Dieu qui s'improvise. Nous, on aime bien des fois faire appel à Dieu quand c'est une situation impossible. Mais à lui, rien n'est impossible, tout est possible à Dieu. Et on va un peu parler de... Il prépare aussi, hein, et on s'en va parler, il prépare les personnes qu'il a choisies, il les appelle, il les forme, il les missionne. Et c'est un Dieu qui est patient. Amen. Il a toutes les qualités. Les êtres humains n'ont pas toutes les qualités, mais lui a toutes les qualités. Et en fait, j'avais envie, alors bon, j'avais vraiment envie, puis je l'ai fait, hein. Dans l'ancien, j'avais vraiment envie de parler de, bon, vous savez comment Jésus est venu, tout ça, mais de voir ça sous un autre angle. Voilà. On peut regarder la venue de Jésus de manière très différente, en fait. Donc, j'ai des questions à vous poser, qui sont pas trop compliquées. dans l'Ancien Testament, Dieu avait-il déjà parlé de la venue de Jésus? Oui, c'est bien, c'est très bien. Et en fait, d'après vous, quand est-ce qu'il a commencé pour la première fois à en parler?
Dans la Genèse.
Dans la Genèse. On va avoir 10 sur je ne sais pas combien. Oui, c'est dans la Genèse. Et c'est juste après quoi? J'ai pas entendu, il y en a quelqu'un qui l'a soufflé. La chute. En fait, Dieu est extraordinaire, quoi. Parce que quelque part, avant même que, enfin, ils ont chuté, hein, Adam et Ève, mais on voit tout de suite que Dieu parle déjà, hein, de son plan. Mais le plan sera découvert que progressivement, parce que c'est ça aussi. Donc, vous l'avez, ça, vous connaissez, hein, vous avez ça dans Genèse 3:15, hein, où il est dit, il parle au serpent, donc il s'adresse à lui, hein. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. Voilà. Donc, sa descendance. Et qui est la descendance de cette femme? C'est Jésus. Et c'est la première fois qu'il en est parlé dans la Bible, sitôt après que l'homme ait commencé à faire, et la femme, hein, parce qu'ils étaient deux, hein, pas un pour soutenir l'autre, ou lui dire « Stop !» Voilà. Alors, après, il a aussi parlé, dans l'Ancien Testament, par les prophètes. On ne va pas tous les énumérer, mais certains, et c'est intéressant de voir ce qu'ils ont dit, il a chargé les prophètes de maintenir son plan, et plusieurs prophètes ont parlé de sa part, de la venue de Jésus. Alors évidemment, je pense que pour eux, je ne sais pas, quand ils disaient ces choses-là, comment ils comprenaient. Parce que pour nous, c'est évident. Mais pour eux, hein. Et donc, vous avez ça dans Ésaïe. Alors, il y a Ésaïe 7, au verset 14. Et c'est marqué, donc, Ésaïe était prophète 740 ans avant Jésus-Christ. Pour dire... Dieu, il perd pas le nord. Quand il a décidé quelque chose, il ira jusqu'au bout. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera pour nom Emmanuel. Et Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. Le projet de Dieu, c'était qu'il soit parmi nous sur la terre, pas seulement le gouvernement céleste, mais d'être sur la terre parmi nous. Dieu avec nous, Dieu en notre faveur, c'est ce que signifie le nom Emmanuel. C'est extraordinaire, hein ? On ne peut que s'en réjouir. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu pour nous. Et Dieu l'avait dit, hein, dans Corinthiens, on a un verset qui dit, de Corinthiens 6, 16, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Voilà, donc, c'est bon de savoir que Dieu ne revient pas sur ses projets et qu'il continue. Et donc, il y a aussi Ésaïe 9, au verset 5, c'est des versets que vous connaissez. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant et un fils. Je ne sais pas comment il a compris, il a dit ce que Dieu lui avait dit, Isaïe. Hein. Et il exercera l'autorité royale. Et il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort. Voilà, ça c'est des bonnes choses. Il faut se rappeler qui est Jésus. Et il y a aussi Ésaïe 11, de 1 à 5. Alors, c'est un peu plus de 11, bon, je ne sais pas. De 1 à 5, oui, c'est de 1 à 5. Et donc, il parle du roi et du règne à venir. Donc, vous pourrez le lire. Hein. Et il y a aussi, hein, il y a encore deux prophètes. Il y a aussi Michée, hein, qui est prophète vivant au temps d'Ésaïe. Et voilà ce qu'il a dit. Lui, il parle de Bethléem, il parle de la ville où Jésus naîtrait. Donc c'est Michée 5, de 1, voilà la parole prophétique qu'il donne. Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui règnera sur Israël. Et son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. Puisque Jésus était avec Dieu quand il a créé la terre et les cieux. Et voilà. Et son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. Et ça, c'est cité. Oui, voilà. Ensuite, donc après Michée, je vous ai mis Zacharie. Voilà. On finira avec les prophètes, les prophètes du temps ancien. C'est dans Zacharie 3,8, et là c'était 538 ans avant Jésus-Christ. Et en fait, Zacharie dit simplement « Je ferai venir mon serviteur qui est appelé le germe ». Le germe, c'est ce que Dieu a implanté en Marie, le germe, la semence parfaite. Il a implanté, c'est ça, hein, c'est comme ça, il faut parler comme ça, c'est vrai. Hein, c'est le germe. Et souvent, on voit que ce terme du germe est employé. Et Jésus, c'est ce germe qui est saint et qui est le Fils de Dieu. Okay. Donc ça, c'est dans Zacharie 3, 8. Et j'ai mis aussi Jean, il ne faut pas que je m'emmêle les pinceaux. Hein. Et quand il est dit, tout à l'heure je vous ai dit, son origine remonte au temps passé, aux jours anciens, c'est repris dans Jean 1, 1, hein, on va le lire. Juste, moi je trouve que c'est important de savoir où on va et où on est, et qu'est-ce qui s'est passé. Alors, c'est marqué simplement, vous connaissez ce verset, « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. » Et il y a Jean, donc, qui disent simplement, au verset 15 du même chapitre, « Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé car il existait déjà avant moi. » Voilà. Donc, ça, c'est l'histoire. Et il est dit, au verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père nous l'a révélé. » Il a tout dit. Il a dit les secrets. Il a tout dit. Il a révélé qui était le Père. Personne n'a... C'est pour ça que Jésus il dit, « Celui qui m'a vu... » a vu le Père, ils sont de la même patte, si on veut bien, si on veut dire ça, la même patte, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour parler un petit peu, pour situer un petit peu. Ça, on n'en parle pas forcément quand c'est Noël, mais je trouve que c'est important de voir qu'il y a eu Dieu, il perd pas le nord. Hein. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Mais le petit problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas même la même notion. Vous avez remarqué, hein, la même notion. Du temps que lui. C'est là notre problème. Dieu, un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Vous essayez de comprendre. Moi j'ai pas résolu l'équation. S'il y a un mathématicien ici, très compétent, il a une notion d'éternité. Et nous, il veut nous entraîner aussi dans cette notion d'éternité. Mais nous, on sait que notre vie, on est dans cette notion d'éternité. Puisque quand on a Jésus, eh bien notre, on a la vie éternelle. Rien que pour ça, on peut célébrer Jésus. On peut célébrer Dieu. Mais on sait que notre vie sur la terre telle qu'elle est, avant son retour, bon, on a un temps limité. C'est pour ça qu'il faut bosser. Et c'est pour ça qu'il faut annoncer le salut. Sans jamais s'arrêter, en aimant les gens, en aimant les gens, c'est très important. Voilà, donc ça je voulais vous le donner. Et en fait, j'avais une autre question. Hein? Autant Dieu a parlé dès le départ, en disant que il allait y avoir quelqu'un hein, qui viendrait le représenter, qui viendrait nous sauver, etc. Dans le premier chapitre du Nouveau Testament, on a la concrétisation, c'est ça, dès le départ, dans le Nouveau Testament, on a la concrétisation de la venue de Jésus. Et moi, je me suis, j'ai fait ça un peu avec les enfants aussi la semaine dernière, mais je me suis un peu amusée pour savoir quelle personne Dieu avait prévu pour cet événement, qui est quand même un événement qui a changé le cours du temps, et c'est un événement, c'est la vie éternelle qui est apparue. C'est Dieu qui est apparu sur terre. Vous imaginez que le Saint-Esprit en nous, c'est l'Esprit de Dieu. On n'a pas la notion de ça, en fait. Il faut prier pour qu'on ait la notion qu'en nous, il a dit « j'habiterai ». Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, il faut bien entretenir son corps. Et alors, c'est important aussi. Alors, quelles sont les personnes qu'il a choisies ? Alors, il y a des anges, il y a des milliers d'anges le jour de la naissance de Jésus, ok ? Il y a des êtres humains, hein, on va en citer, on va leur donner un nom. Il y a un empereur, il y a un roi, il y a des astrologues, voilà. Et il y a aussi des anges, et particulièrement, hein, tous ces gens-là, c'est ça ce qui m'a un peu impressionnée, c'est en fait que tous ces gens-là ne se connaissaient pas. Et ils ont été impactés, en fait. Et Dieu, des fois, il fait converger parce qu'il a une idée en tête et il choisit là, il choisit là, il choisit là. Qu'est-ce que tu sais ? Tu sais pas, en fait, ce que ta vie a impacté, forcément. Tu dis, ben moi, je suis un petit... lambda, là, je suis un petit bonhomme ou je suis une petite bonne femme, ou, etc. Mais en fait, pour la naissance de Jésus, en tout cas, ben, on voit que Dieu a fait converger plein de personnes, en fait. Et les anges, et l'ange Gabriel, et les rois, et les empereurs, qui n'étaient certainement pas chrétiens, hein, mais il leur a donné des décrets à publier. C'est ça ce qui est extraordinaire, quoi. C'est pour ça qu'il faut vraiment prier pour nos autorités. pour que Dieu les inspire, au nom de Jésus, que Dieu les inspire et que les décrets qu'ils parlent, ce soient des bons décrets qui vont dans la lignée. Et Jésus, Dieu avait tout prévu. Donc, quels sont leurs prénoms? Allez, donnez-moi quelques petits prénoms, là. Comment? Ben, des gens concernés que Dieu a appelés appelé juste avant la naissance de Jésus. Hérode, ah ben ça vous le connaissez, Hérode, oui. Mais d'autres plus sympas qu'Hérode, s'il vous plaît. Zacharie et non, c'est pas Anne. Ah ben attends, elle était enceinte, je vais vous emmêler le pinceau. Non, Zacharie, il avait une femme qui s'appelait Élisabeth. Anne, c'était pas loin, parce qu'elle était stérile, en fait. Hein? Alors, il y a eu aussi, eh bien, Marie, il y a eu aussi Joseph, hein? Jean-Baptiste, il était en chemin, puisqu'il était dans le ventre d'Élisabeth. Hein? Okay. Il y a eu l'ange Gabriel, il y a eu l'empereur César Auguste et le roi Hérode, plus les astrologues, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Hein? Donc en fait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en très peu de temps. Vous vous imaginez que depuis le début, à la Genèse, il avait promis qu'il y a un Jésus qui allait venir, et ça s'est passé, je dirais, quelques années plus tard. C'est pour ça qu'un jour, c'est comme 1000 ans, hein, avec Dieu, voilà, pas de souci, d'accord? Alors, il y a beaucoup de remue-ménage, et pour ces personnes, beaucoup de remue-ménage pour ces personnes, hein. Alors, le premier, c'est que l'ange Gabriel, vous le savez tout ça, mais c'est bon de se rappeler comment ça s'est passé. Hein. L'ange Gabriel est envoyé pour parler à qui? À Zacharie, qui était dans sa fonction de prêtre. C'était lui, hein, et il se rend au temple pour faire la fonction qu'il avait. Et en fait, l'ange, vous connaissez aussi l'histoire, je vais juste prendre le début, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il assurait son service devant Dieu. C'est bien. Hein? Voilà. Et voilà, tout d'un coup, voilà, c'est quand Dieu veut. Des fois, il ne nous prévient pas. Il fait apparaître un ange. Et donc, l'ange Gabriel est venu trouver Zacharie. Hein? Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. » Ça, c'est concret. « Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. » Il sera grand aux yeux du Seigneur et il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein maternel, donc dans le ventre de sa maman. Il sera rempli du Saint-Esprit. C'est incroyable. Comment? Moi, j'avais jamais fait attention à ça, mais en fait, on va le retrouver, ça, quand Marie vient saluer Élisabeth. En fait, l'enfant, tout d'un coup, il fait un boum dans le ventre de sa maman. Et alors, moi, ça me réjouit, c'est de savoir qu'il est rempli du Saint-Esprit. Nos enfants, et moi, je suis mordicus avec ça, et je le tiens, hein, nos enfants peuvent être remplis du Saint-Esprit même avant de naître. C'est Dieu qui choisit. Et la présence de Jésus en eux, on sait, on connaît, moi je connais des enfants qui sont... Ils aiment Jésus, on se demande où ils ont appris ça, mais ils l'aiment, en fait. Et ça, c'est drôlement important, puisque connaître Jésus, ça ne vient pas dans notre tête, mais ça vient dans notre cœur. Et donc, en fait, Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit, il a été baptisé du Saint-Esprit bien avant la Pentecôte. Il n'a pas connu la Pentecôte, puisqu'on lui a coupé la tête. Mais il était rempli du Saint-Esprit, rempli, voilà. Et en fait, Jean-Baptiste, il a fait ni miracle, rien du tout, il a préparé le chemin de Jésus. C'est pour ça que c'est important de semer. Vous êtes peut-être, chacun d'entre nous, on a ce taf à faire, de préparer le chemin de Jésus, comme Jean-Baptiste, et d'être rempli du Saint-Esprit pour ça. Bon, vous allez peut-être pas mettre une moumoute de mouton ou de chameau. Hein, c'est peut-être pas nécessaire. Je vous dis, mangez pas des sauterelles. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Mais Jean-Baptiste, il a été mandaté, quoi. Et il est dit que ben, il amènerait, là, il préparerait le chemin. Qu'est-ce que nous devons faire chaque jour de notre vie? D'après moi, on doit préparer le chemin de Jésus pour les gens que nous côtoyons. Ce n'est pas les évangéliser forcément, c'est préparer ce chemin comme Jean-Baptiste a fait, ça a été son unique mission. Et vous savez ce que Jésus a dit de lui? Il est grand. Il est grand. Il est grand. Il a simplement fait ce que Jésus lui demandait, enfin que Dieu le Père le missionnait. Et on est appelé à préparer le chemin de Jésus. Ton collègue de travail, il est né de nouveau, il est chrétien? Eh bien, je te signale que tu es chargé de préparer son cœur. À lui de répondre ou de ne pas répondre. Il ne s'agit pas tous les jours de lui casser les pieds. Hein, ce n'est pas ça. Mais prie déjà, priez. Priez pour que le chemin de Jésus soit préparé dans son cœur, en fait. Simplement prier et aimer les personnes. Les gens savent une chose, ils savent quand ils se sentent aimés, compris, entendus, gratuité. Gratuité. Et il y a quelque chose qui se passe. Là récemment, à la prison, une fois j'ai venu voir quelqu'un qui arrivait, donc c'est toujours, etc. Et pile, il a déménagé de sa cellule pour aller dans une autre cellule. Et en fait, elle voulait me voir et moi, je voulais la voir. Je ne sais pas pourquoi, j'étais sûre qu'il fallait que je voie cette femme, quoi. Et en fait, j'ai attendu. Franchement, j'étais gentille. Les surveillantes m'ignoraient. Et puis, quelque part, ben, elle était un peu paumée. Enfin bref, elle ne savait pas se repérer dans la prison. Enfin bref, etc. Et puis en fait, elle s'est souvenue de quelque chose. Parce que j'ai attendu plus de 3 quarts d'heure. Donc 45 minutes, j'ai attendu. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, il y a des fois je ne le fais pas, mais là je l'ai fait. Et quand je l'ai revue, elle m'a dit « Oui, vous m'avez attendu ». Et quand elle m'a dit « J'ai senti que vous m'aimiez parce que je l'ai attendu ». J'ai attendu 3 quarts d'heure, c'est tout. Ça, c'est préparer le chemin de quelqu'un. Le chemin. Le chemin. Ce n'est pas forcément annoncer Jésus et tout ça. Bon, après, je lui ai parlé, etc., etc. J'ai pu annoncer Jésus. Mais voilà, il ne faut pas se compliquer la vie. Jésus était rempli d'amour. C'est ça ce qui le différenciait tellement de tous les gens, en fait. Alors, on continue, hein, parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Hein. Mais ça sera de ma faute. Hein. Donc, alors, il sera rempli, etc. Et il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur. Hein. Et puis le papa, Zacharie, comme il ne croit pas que Dieu est capable de faire des miracles, n'est-ce pas? Eh bien, il est rendu muet, Zacharie. Ploup! Parce que voilà, il n'a pas cru, c'est clair, c'est dit, hein, il n'a pas cru ce que l'ange lui disait, quoi. En fait, la préparation de ce que moi j'ai remarqué dans la préparation de la venue de Jésus, c'est que Dieu s'est adressé et il a choisi, en fait, la famille. Il a choisi un couple. Et avant la venue de Jésus, il a même guéri cette femme, Élisabeth. Il l'a guérie. Il a choisi aussi Marie. Et c'est l'ange Gabriel qui lui... Est-ce que c'était quelqu'un de connu? Ben non! C'était pas quelqu'un de connu. Mais il l'a choisi pour qu'elle porte Jésus. Et moi, ce que je vois au travers de ça, c'est que, en fait, la venue de Jésus, Jésus voulait vraiment réveiller les familles, en fait, et dire l'importance. Jésus, il a été planté, le germe a été planté dans le cœur, dans le corps d'une femme, et c'est un couple qui l'a accueilli. Et moi, ça m'a réjoui de voir ça sous cet angle, quoi. Sous cet angle. Et, en fait, quand les Israélites, en fait, sont partis, les Hébreux sont partis, c'était une histoire de famille. Rassemblez-vous en famille, mettez le sang sur les linteaux de la porte et après, en fait, l'ange de la mort va passer, vous, vous serez épargné. Et après, vous fuyez, vous partez. Et en fait, il faut, il y a vraiment quelque chose qui se joue pour, au niveau des familles. En fait, là, c'est un couple, et puis c'est aussi un qui connaît, enfin, un qui s'est trouvé dans une situation un peu compliquée. Comment il s'appelle ? C'est Joseph, quoi. Il s'est arraché les cheveux, quoi. Pourquoi ? Ben, Marie était enceinte, mais ils étaient seulement fiancés, et il n'avait jamais connu sa femme. Qu'est-ce que je fais ? Il n'avait plus de cheveux. Ça, je rajoute, hein. On peut faire ce qu'on veut, hein. Et un ange est venu le trouver. Il y a énormément d'anges qui sont intervenus. Ce qui est étonnant, c'est que en très peu, enfin, ça a mis énormément de temps pour que Jésus arrive, quelque part. Mais en l'espace de peu de temps, on a la naissance. Il y a eu une espèce d'intervention qui était voulue par Dieu. Comme quoi, quand il dit, Jésus, qu'il allait revenir et que... Eh ben ça fera boum boum boum, hein, je sais pas comment ça va se passer, mais que ça serait, il y aurait peut-être des signes annonciateurs, mais en fait des choses qui se passeraient très rapidement, quoi, en fait. Et là, en fait, c'est ce qui s'est passé, en fait. Tout ça s'est joué sur peu de temps, hein, sur le temps d'une grossesse, en fait. Une grossesse et demie, voilà. Et Dieu a choisi des incognitos. Oui ou non ? Oui, oui. Bon. Vous êtes là ? Vous avez tout ce que je dis. Mais moi, j'avais vraiment envie qu'on se responsabilise en tant que couple et en tant que famille dans l'œuvre de Jésus. Franchement, c'est les familles qui ont été. Aujourd'hui, la famille, et moi, ça me révolte. Hein ? Tout ce qui se passe avec le gouvernement, etc., ils se prennent pour les parents des enfants, et ça me escagace, hein, voilà, pour leur apprendre des choses qu'ils n'ont pas besoin de savoir, hein, bref. Mais c'est important. La famille est toujours, 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 et demeurera toujours, toujours, toujours le plan de Dieu. C'est écrit, et ça ne sera pas autrement. C'est trop important. Et le diable, en ce moment, il sape la famille. Tout ce qu'il peut. Pour disperser, pour éviter les relations, pour voilà. Et on voit combien les enfants peuvent être éparpillés. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Moi, j'ai rien contre si elle est utilisée dans un bon sens. Enfin, bref. Mais faut être conscient que nous chrétiens, on a un rôle à jouer en tant que famille. Chaque famille. Et c'est puissant. Et on peut œuvrer, hein. Et on voit dans les Actes des Apôtres qu'il se passait aussi des choses au niveau des familles. C'est nommé, les gens sont nommés en tant que famille. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Et c'est notre responsabilité en tant que parents, en tant que papy, mamie, voilà. La famille, c'est le plan de Dieu. Et l'ennemi, et il va continuer. Psh, psh, psh. Où sont les chrétiens ? Où on est ? Parce que là, la naissance de Jésus, c'est la famille qui a joué, en fait. Alors, et puis je trouve que c'est puissant, parce que, en fait, alors attendez, on va sauter là. Hein, bon, l'ange, vous connaissez, quand il a salué Marie, etc., il lui a expliqué, parce qu'elle, elle a dit, mais comment saurais-je ? Et la réponse de Marie, donc, il est clair. Alors, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi. Boum! L'Esprit Saint sur Marie. Tac. Il descend. Et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois. Mais ils sont très au courant de ce qui se passe, les anges. Hein. Vois, ta parente, ta cousine, une histoire de famille, je vous dis, ta cousine, ben quelle bénédiction sur cette famille quand même. Attendez, Jean-Baptiste, Jésus, c'est le gros lot en fait. Enfin, je ne sais pas, mais quel honneur en fait de porter le Fils de Dieu et puis Jean-Baptiste, celui qui a tracé la route, quoi. Vois, ta parente Élisabeth attend aussi un fils, Il fonctionnait aussi mieux. Il n'y avait pas de téléphone, mais les anges étaient porteurs de bonnes nouvelles. Amen. Malgré son grand âge, on disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle en est à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie répond, c'est impressionnant ce qu'elle dit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce qu'il m'a dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. La paix de Dieu est venue sur Marie. Et Marie, comme toutes les femmes, s'est dit, « Oh, la cousine, elle est enceinte, on va aller causer, je vais aller là. J'ai des choses à dire, j'ai des nouvelles à annoncer. » Toutes les femmes, on est comme ça quand on est enceinte. On a du mal à garder le secret, n'est-ce pas ? On est content, la vie bouge, la vie est en nous, quoi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Marie, elle part pour se rendre là où habite sa cousine. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. C'est impressionnant, quoi. Comme quoi, les enfants sont sensibles à beaucoup de choses. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Deux cousines qui se rencontrent, non pas pour bavarder puis se raconter des bêtises, mais pour célébrer le roi qui vient. Enfin, ça explose parce que voilà. Elle fut remplie. Alors, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte. Voilà, elle prophétise. Ça lui est sans doute jamais arrivé. Elle est remplie du Saint-Esprit. Donc, c'est vraiment impressionnant. Moi, ça m'impressionne. Enfin, vous allez me dire, il ne faut pas grand-chose pour elle, mais... mais c'est une histoire. Attendez, imaginez-vous si vous étiez à la 7. Alors, ben, c'est incroyable tout ce qui s'est passé, quoi, en fait. Et voilà ce qui se passe. Elle prophétise sur Marie. Elle dit, tu es bénie plus que toutes les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir ? Peut-être elle ne comprenait pas tout ce qu'elle disait, mais elle l'a dit. Car vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. Voilà. Donc, on peut faire des réunions de prière dans la famille qui sont explosantes, qui sont dynamisantes, qui vont amener la vie et les choses de Dieu, quoi. Et on se prive de ça, en fait. Alors que là, c'est pas... On peut le vivre, oui ou non ? Ouh ! Mais on peut le vivre, parce que qu'est-ce qui est répandu dans vos cœurs ? Le Saint-Esprit, vous pensez qu'il affaiblit, là, depuis quelque temps ? Eh bien, c'est à réveiller tout ça. Parce que Dieu veut œuvrer dans nos maisons, dans nos familles, il veut œuvrer dans notre voisinage, là où on est, là où Dieu nous envoie. Il veut œuvrer et ça nous dépasse. Parce que là, vous croyez que ça ne les a pas dépassés ? Entre celui qui se retrouve, le pauvre Joseph, lui, heureusement que l'ange l'a consolé, puis il lui a indiqué ce qu'il devait faire, sa fiancée était enceinte, quoi. Bon. C'est pas très réglementaire, mais bon, avec Dieu, il faut se méfier, hein, on ne sait jamais, hein. Et tu es heureuse, toi, qui as cru à l'accomplissement de... Et après, alors, ce qui est impressionnant, c'est que l'enfant bondit, Élisabeth bondit, enfin, elle prophétise, etc. Et Marie surenchérit. Donc, vous voyez un peu, quand il y a la présence de Dieu, quand la famille se met en route, ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Et ça, et ça, et ça. OK ? Et qu'est-ce que... Et Marie... Elle est très simple, Marie, elle dit « Mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur », etc., etc. Et elle prophétise, elle aussi, elle cite des passages des psaumes. Elle dit « Et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent. Il est intervenu de toute sa puissance, il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil ». Etc., etc. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est passionnant. Je ne sais pas si vous vous passionnez, je ne sais pas si j'arrive à vous passionner, mais en fait, il s'est passé des choses extraordinaires. Si la venue de Jésus a pris... Moi, c'est ça ce qui m'a parlé. C'est que la venue de Jésus a fait un boom dans cette famille. Nous, on voit toujours Jésus, il est né, etc. Tant mieux, il est né, c'est bien. Jean-Baptiste, il est né. Mais en fait, ça, c'est focus sur la famille. C'est focus sur la famille. Et dans les temps dans lesquels on est, il faut que les familles se réveillent. Il faut qu'on prie avec nos enfants. Il faut qu'on leur apprenne des choses simples de la Bible pour les petits. Il faut qu'on puisse... mais vraiment, vraiment, c'est le rôle des parents. Et il faut vous revêtir, les parents, il faut vous revêtir. Les grands-parents sont là aussi, les frères et sœurs, ceux qui sont plus âgés, pour bénir, pour pas forcément leur prendre plein la tête, quoi. Mais c'est pas leur prendre... Alors aujourd'hui, on va étudier le chapitre 1 de machin, et demain, nous serons dans l'Ancien Testament. Non, il faut adapter, hein. Il faut adapter. Mais ça, c'est drôlement important. Il faut que nos enfants, il faut que notre maison soit une maison de prière. Vous savez que la famille, c'est le premier lieu de l'Église. C'est le premier. C'est, je dirais, une mini-Église. Papa, maman et les enfants. Après, vous pourrez ajouter les papis, mais on ne vit pas forcément ensemble dans notre façon de fonctionner. Mais en fait, c'est là où ça commence. C'est là où ça commence. Et Dieu nous a chargé l'Ancien Testament. C'est clair par rapport à ça. L'Ancien Testament, qu'est-ce que Dieu a dit plein de fois? Quand tu pars en voyage, quand tu te couches, quand tu te réveilles, quand tu parles à ton enfant, raconte-lui les miracles que Dieu a faits. Raconte, raconte, de génération en génération, raconte. Et ça, c'est important. C'est important. Et voilà, donc il est quelle heure? Midi. Il est midi. Alors, donc, juste pour finir, c'est ce que j'ai mis, je vous l'ai dit comme ça. Vous savez ce qu'a dit Marie? Car rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Écoute, ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Prions pour que dans nos familles, ce que Dieu a prévu s'accomplisse. Ce que Dieu a prévu. Ce n'est pas l'État qui est chargé de s'occuper de nos enfants. Il est chargé de gouverner et nous, on est chargé de bénir nos enfants, de les remplir de la vie de Dieu, qu'ils puissent aussi vivre déjà des expériences vraiment avec Dieu, à leur niveau, quoi. Et Dieu m'est rempli. Moi, je vous l'ai déjà dit, notre fille, la dernière de nos filles, celle qui s'est fiancée récemment, hein, elle a parlé en langue bien avant qu'elle parle français. Et moi, la maman, hein, quand j'ai senti que moi, je parlais en langue quand je la couchais, des fois je priais, mais des fois, je parlais en langue, je savais plus trop quoi dire, alors je parlais en langue. Et puis j'ai senti un soir, elle était toute jeune, hein, toute jeune. Hein. Et j'ai senti qu'elle voulait avoir ce que j'avais. Et puis moi, je me suis adressée à Dieu. Je fais comment? Et puis Dieu m'a dit, mais comment t'as reçu le Saint-Esprit? Alors je lui ai imposé les mains et puis elle s'est mise à parler en langue. Et elle a parlé en langue bien avant de parler en français. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut et il peut faire bien plus que ce qu'on pense. Bien plus que ce qu'on pense. Parce qu'il nous a mandatés en tant que parents. Il nous a mandatés. Nous, on prie avec Jean, qui n'est pas là ce matin parce qu'il est mal fichu. Donc, il vous a épargné de ses microbes, c'est ce qu'il m'a dit. Mais il vous salue. On prie tous les jours pour nos enfants, nos petits-enfants. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu vois, Ruben, on prie tous les jours pour toi. Et la grand-mère de Jean, qui était une famille, Jean il est d'origine arménienne, donc voilà, ils sont, pour la plupart ils sont chrétiens dans cette famille, et c'est une grande. Elle a prié pendant des années, c'était une femme remarquable. Moi j'allais chez elle, avec Jean, ou avec, elle est décédée il y a longtemps maintenant, et elle arrivait, enfin on se disait bonjour et tout ça, puis elle nous disait souvent, assis-toi, j'ai fait un rêve. et elle racontait quelque chose. Et en fait, très souvent, ça correspondait à ce qu'on vivait. Ou une réponse à nos prières. C'était une femme de prière. Elle a prié. Et c'est vrai que la famille Yapoujian, ils sont... C'est vraiment des serviteurs. Enfin, on voit, ils ont des... Ils sont, la plupart sont salutistes, mais de génération en génération, c'est transmis, quoi. Et ça, c'est pas magique. C'est simplement l'investissement. Et on est au bénéfice, moi je dis, je suis au bénéfice de ça. Parce que j'ai épousé Jean, donc j'ai... je suis au bénéfice. Et je sais que nos enfants, nos petits-enfants, nos filles sont au bénéfice de ça, et etc., etc. Et on peut être les premiers, hein, d'une... des fois, ça... Et il y a une bénédiction, plus il y a de générations qui connaissent le Seigneur, plus l'âge, plus la bénédiction continue et explose, en fait. Quand vous êtes les premiers à vous convertir, eh ben, va falloir bosser. Alors, vous êtes un pionnier. Alors, on se tient droit, hein. On est pionnier. Donc, c'est bien d'être pionnier. Et moi, je sais que dans ma famille, j'ai été pionnière, en fait. Et j'ai du boulot. Hein? J'ai du boulot, mais j'ai mon papa et ma maman qui se sont vraiment donnés au Seigneur. Mon papa, 7 jours avant de mourir. Maman, elle a fait des expériences avant, mais elle a vraiment connu le Seigneur, etc. J'ai une tante aussi qui, juste avant de mourir, eh ben, me téléphonait souvent pour que je lui parle de Jésus. Enfin bref, et puis j'en ai d'autres. Hein. Mon frère et ma sœur, c'est nickel, c'est rien. Rien, ils veulent rien en savoir. Bref. Mais moi, je crois que c'est ça. Noël, c'est ça aussi. Qu'on relève la tête parce que Jésus nous a mandatés. Jésus nous a mandatés en tant que parents. Et on ne peut pas démissionner. On ne peut pas démissionner, ce n'est pas possible. Donc voilà le message. Et maintenant, on va faire concret. Vous allez vous mettre par famille, voilà, et vous allez prier pour que recevoir vraiment et être établi dans votre rôle de papa, de maman ou de grand-parent, enfin bref. Simplement, demandez au Seigneur de vous donner la vision de ça. Vous allez me dire, c'est désespérant, tu me donnes ton travail à faire. Eh, quand des chrétiens se réunissent, quand Marie et Élisabeth se sont réunies, pfiou ! Ah. Donc vous allez vous lever, et puis vous mettre par famille. Alors vous pouvez aller chercher, Frédéric, tu peux aller chercher ta femme. Alors les enfants, peut-être on ne va pas les déranger. Oui, ils en sont. Mais c'est important, vous allez vous regrouper et vous allez vous bénir. Et c'est trop bien quand les enfants disent à leurs parents, « Papa ou maman, bénis-moi. » Alléluia. C'est pas ce qu'a dit nos amis, etc., la tribu, là, les 12 tribus. « Papa, bénis-moi. » Ok ?